Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Le désir, pour moi, il s'est construit. Ça concerne tout le monde.
D'autres constellations qu'on va aller tisser.
Une espèce de lumière.
Il fallait rencontrer des femmes, des lesbiennes et faire leurs portraits, rendre visibles nos diversités. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchie Podcast, nous recevons Marie Daucher à l'occasion de la publication de son ouvrage « Et l'amour aussi » à la Déferlante édition. Le festival d'amour, c'est parti. Nous sommes le 14 février, journée sainte du festival d'amour. La parfaite excuse, ou l'excuse parfaite, d'en faire trop, d'en dire beaucoup, de vous en mettre plein les oreilles et plein le cœur aussi. On pourrait penser que c'est carrément kitsch d'aimer parler d'amour, alors je nous autoproclame la librairie la plus kitsch en ce bas monde. Que Cupidon nous prenne pour cible, on est prête, envoyez l'amour. Ce soir, pour cette troisième rencontre du Festival d'amour, je te reçois Marie. Toi qui as posé un regard si tendre sur tant de visages manquants. Toi qui as éclairé de mots et d'images une façon d'être au monde encore invisibilisée. Telle une détective d'amour, tu as plongé les yeux au cœur de ces histoires de vie si précieuses. Tu as écouté et entendu les femmes qui aiment les femmes, les lesbiennes, les gouines, celles qui ont vibré au rythme du générique. The Ziel World, qui ont eu le souffle coupé face au clip pluie battante et fil barbelé de. All the Things She Said de Tattoo, qui n'ont jamais tant voulu se mettre au tennis ou acheter un magazine à scandale qu'après le coming out d'Amélie Mauresmo. Bref, tu nous donnes à voir et à lire une part absente de notre histoire commune et pour cela, aucun merci ne sera suffisamment grand. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Je suis, comme tu l'as entendu, ravie de te recevoir à l'occasion donc de la publication de ton livre Et l'amour aussi, aux éditions que nous aimons de notre cœur, de notre corps et de notre âme, La Déferlante. Je pense que tu les aimes beaucoup aussi.
Oui, également. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler.
Tout à fait. On va leur déclarer notre flamme ce soir.
Voilà.
Et donc, ce livre incroyable, puisqu'on peut le dire comme ça, incroyable, c'est un mélange de témoignages et de photos. Alors, je sais, et pour t'avoir accueilli quasiment avec ces mots-là de ta part, tu es donc une spécialiste de la photographie des femmes photographes. Est-ce que tu peux de ce fait, en effet, nous raconter cet amour que tu as pour la photographie, mais aussi pour les photographes femmes ?
Oui, alors je vais essayer de faire bref.
Tout à fait.
Parce que c'est une histoire qui a duré 10 ans. Il y a 10 ans, je trouvais qu'il y avait très peu de photographes femmes exposées, publiées, éditées, récompensées dans les prix et nationaux et internationaux. Et on m'a dit que j'exagérais. Et depuis, j'ai compris que quand on me disait ça, j'avais raison. Hein. Et donc, j'ai commencé à compter, j'ai beaucoup compté et j'ai montré que j'avais raison. Mais bon, avoir raison n'était pas si intéressant que ça. Ça m'a emmené en fait dans une aventure un peu dingue. où pendant 4 mois, j'ai passé mon temps à compter, à lire, à aller écouter des sociologues du travail, de l'art, etc. Et puis j'ai voulu ouvrir un blog pour parler de ce que j'avais quand même pas mal travaillé. Et juste avant de l'ouvrir, je tombe sur un article dans un magazine professionnel des libraires. Il y avait une étude qui montrait que les hommes ne lisaient pas les femmes, enfin à la marge. Et je me suis dit, ah, avec tout ce que j'ai fait, ça serait dommage. Donc j'ai pris un pseudonyme masculin, Vincent David. Et il se trouve que la semaine où j'ai ouvert ce blog, je suis rentrée à La Barbe, au collectif d'activistes La Barbe. Ça a une importance aussi pour ce livre. Et j'ai découvert ce que c'était d'être une lesbienne militante. Et ça a changé ma vie. Donc ça a été une semaine assez exceptionnelle. C'était autour du 8 mars, je crois. Et donc après, se sont enchaînées énormément de choses. Il a fallu que j'écrive, que je filme, que je mobilise, que je fasse des réseaux. C'est des réseaux qui se sont agrandis. Et ce qui fait que maintenant, il y a presque autant de femmes. On a embêté beaucoup de monde. Hein. On a fait changer le Festival d'Art, le Libération, qui faisait travailler que des hommes, et avec les conséquences que ça a en termes de représentation. Et donc, toute cette histoire est rassemblée dans ce livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Femmes photographes, 10 ans de lutte pour sortir de l'ombre, qui est sorti en même temps que ce livre. Voilà, moi je fais des choses qui sortent, il y a des alignements de planètes de temps en temps, donc c'est assez intense. Mais ce qui veut dire que les questions de représentation étaient là depuis très longtemps. Je pense que lorsqu'on est lesbienne, ben, le manque de représentation fait qu'on est sensible. Et puis je me suis emparée de ce sujet, j'allais dire un peu malgré moi, mais pas vraiment, parce qu'en fait, ça s'est ancré. Là, quand j'ai ouvert le blog, on est en 2014, et il y a eu les débats en 2012, les débats sur le mariage pour tous, qui ont été une période extrêmement complexe, et où il y avait une absence totale de représentation et de représentativité des lesbiennes, alors que nos corps et nos droits reproductifs étaient au sein de la loi, au cœur de la loi. Et donc, c'est là où des choses ont changé. Alors, j'ai pris ce biais, ben, parce que j'étais photographe, donc j'ai pris ce chemin de la photographie, parce que la photographie, ça offre des représentations, et qu'il fallait sérieusement y penser. Voilà.
En plus de ces photographies, de ces nombreuses photographies, il y a aussi du témoignage. Et là, c'est peut-être un endroit d'un objet livre qui est peut-être plus singulier, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir livres d'images, les livres de témoignages ou l'autofiction, des choses qui se mélangent plutôt dans les narrations. Ici, il y a quand même un équilibre assez tendu en fait entre ce que les photos peuvent apporter et le texte également. Ce principe-là d'aller interviewer les couples, les personnes, ça a dû aussi mettre un endroit un peu différent de ton travail, peut-être, tu dirais ?
Oui, alors c'est d'ailleurs un projet complètement différent. Moi, je ne faisais pas de photos de portrait, vraiment à la marge, parce que justement, j'avais peur de mal représenter. Et donc, je faisais d'autres choses, mais pas du portrait. Et puis, alors, il faut mettre un contexte, parce que Ce livre est assez exceptionnel. Enfin, il est exceptionnel, en tout cas en France. Hein, il n'y a pas d'antécédent. Mais pour le faire, il a fallu un cumul de, il a fallu un alignement en fait de planètes, pareil. Hein, et c'est pour ça qu'ils sont rares en fait ces livres. Et ce qu'il y a, c'est que donc je ne faisais pas de portrait et je ne suis pas photojournaliste. Mais le ministère de la Culture a lancé en fin 2021 une grande commande pour soutenir le photojournalisme. Et il se trouve qu'il fallait un nombre de publications pour pouvoir candidater. Et que moi, je les avais, ces publications, parce que je travaillais sur une étude sur le portrait de presse photographique depuis le confinement, que la Déferlante était au courant et que les directrices photos de la Déferlante m'ont demandé de faire des portraits parce qu'elles savaient que je réfléchissais dessus. Et donc, je me suis dit, quand arrive la commande du ministère, j'ai les moyens de candidater et je vais candidater parce que le sujet, c'est, ils ont recruté 100 photographes pour 2022 et 100 pour 2023. Et le sujet, c'est radiographie de la France. Donc, on n'allait pas laisser ça rien qu'aux hommes qui allaient nous dire ce qu'il fallait faire parce qu'ils sont très forts dans le photojournaliste. Et donc, j'ai candidaté parce qu'on était, donc, le travail s'est fait en 2022 Et on était 10 ans après le mariage. Et donc, moi, je voulais voir un peu comment on allait, en fait. Est-ce qu'on s'était mariés, pas mariés? Est-ce qu'on s'aimait? Comment on avait vécu ça? Et donc ce projet s'inscrit quand même dans du documentaire, qui est une photo que je ne pratique pas. Et donc, j'ai vite appris. Et on dit souvent qu'une photo vaut 1000 mots, mais en fait, pour les minoritaires, non. Il faut vraiment du texte, il fallait qu'on entende les voix des personnes que j'ai rencontrées. Ça, c'était très, très, très important. Et voilà. Et voilà. Il fallait du texte, il fallait leurs paroles, il fallait leurs photos. Alors, les photos, c'est pareil, hein. Puisque je travaillais sur cette étude, sur le portrait de presse, notamment avec la directrice photo de La Déferlante, qui est une femme absolument remarquable pour travailler sur ces questions. On travaillait sur les pratiques photographiques, parce que l'appareil photo est quand même peut être un outil de domination. Beaucoup de photographes ne se gênent pas pour ça. Et donc, j'ai demandé à chacune où elle voulait être représentée, comment et quand. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une grande diversité de portraits, de points de vue, parce qu'on a co-construit, en fait. On a co-construit. Et c'est vrai que souvent, je faisais l'entretien avant, pas toujours, mais avant. Et moi, ce qui était flagrant, c'est qu'on manquait d'histoire commune, mais que ce qui s'est passé à 10 ans, c'était devenu notre histoire commune. Et qui avait été largement documenté et qu'on pouvait s'en parler. Et ça créait un lien vraiment de confiance. Et alors, avec les plus jeunes, c'était un peu différent parce qu'elles étaient petites, hein, quand il y a eu le. Elles n'avaient pas forcément suivi. Hein. Mais voilà, ça s'est passé comme ça, en fait. Une co-construction des représentations et des moments d'échange. Alors, avec la plupart, sauf avec les militantes, je suis partie sur 3 questions principales, qui étaient « Où étiez-vous il y a 10 ans ?» Donc, ce qui permettait de déployer un petit peu ce qu'elles avaient vécu, parce qu'on n'a pas vécu dans un milieu rural comme à Paris. C'était différent, mais ça permettait de dire où elles en étaient à ce moment-là. Et puis après aussi, si elles s'étaient mariées, pas mariées, comment elles avaient pu évoluer ces 10 dernières années. Et puis il y avait aussi avec quelle représentation elles s'étaient construites. Donc là, c'est la question la plus rapidement faite sur l'absence, mais en tout cas c'est là où s'exprime cette absence totale pour la plupart. Hein, et parce qu'avoir accès à une sous-culture lesbienne, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et puis, quand je dis sous-culture, c'est pas négatif, hein, c'est voilà. Et puis une dernière question qui était sur comment elles se disaient. Est-ce qu'elles se disent lesbiennes, gwyn, queer? Ça dit des époques, ça dit des âges, ça dit plein de choses. Donc c'était les 3 questions principales. Et puis après, avec des militantes, on a parlé plutôt de ce qu'elles faisaient, de leur engagement, voilà.
Ce qui est très touchant, en effet, donc comme on l'a entendu, on vous imagine préparer en amont, toutes ensemble, ces discussions, prendre le temps de discuter. Et ouais. À plusieurs reprises, ce n'est pas la photo initiale qui était prévue qui est prise. Il y a un petit changement, un décalage, comme si en fait la connivence, la complicité, la confiance qui s'est créée dans votre partage permettait peut-être en fait à la personne photographiée d'être plus à l'aise ou en tout cas peut-être plus en accord avec elle-même à ce moment-là et non pas dans une projection peut-être de oui. Qui elle aurait pu être.
Oui, et puis il y a aussi se trouver devant un appareil photo, c'est pas simple. Hein. Donc oui, ça fait changer aussi les perspectives. Mais ça a toujours été... il faut dire une chose, c'est que moi, quand j'ai eu la réponse de la BNF, on était fin décembre 2021, je suis rentrée dans un espèce d'état de joie profonde et qui ne m'a pas lâchée. Et c'était très communicatif. Il y a des histoires qui sont très dures, bien sûr, dans ce livre, mais jamais ça ne sent le pathos. y a quelque chose qui était d'une relation heureuse, en fait. Moi, à chaque fois que je suis sortie, j'étais profondément heureuse. Et je suis restée en contact avec la plupart. Hein, et je vois le chemin qu'elles ont fait aussi, parce que c'est un chemin incroyable d'accepter, déjà, de le faire, d'accepter que ce soit publié. Et puis après, quand c'est publié, ben, comment on le vit, ça ? C'est pas évident, hein. Il y en a qui ont des enfants, est-ce qu'elles le montrent aux enfants, aux parents, tout ça ? C'est pas simple, en fait, d'être lesbienne. Mmh. Donc elles ont fait aussi des parcours vraiment... voilà, chacune des parcours très différents, vraiment intéressants, ouais.
Est-ce que tu dis que ça t'a apporté beaucoup de joie, ce projet, ces engagements-là? Mais quand on lit en fait tous les portraits, ce qui est incroyable, c'est que autour de tes trois questions, y a énormément en fait d'amour, d'amitié, de lien au collectif, d'envie en fait, de bonheur, d'être heureuse. En fait, il y a vraiment quelque chose qui est comme une grande bouffée d'air frais. Quand on lit ce livre, déjà, bon ben, évidemment, il y a quelque chose d'une émotion très forte. Dès le début, avec la préface d'Anne Pauly, je pense qu'on est complètement ramassé, enfin, avec elle, par tout ce qu'on entend, que ça a touché chez elle, en fait, de se dire, si moi, adolescente, j'avais eu ce livre, ouais, ça aurait été complètement différent. Et est-ce que toutes les personnes photographiées ont à un moment donné, t'ont exprimé cet endroit-là de dire « en fait, je veux participer ». Est-ce que ce soit différent pour la suite, pour les autres ?
Oui, oui, alors, peut-être qu'il faut dire comment je les ai sélectionnées.
Tout à fait.
Dès le début, il y avait quelques militantes que je voulais, celles qui s'occupent d'histoire, celles qui s'occupent de solidarité, celles qui s'occupent de politique. Donc ça, c'était intéressant d'aller discuter avec elle. Mais je ne voulais pas faire... Alors, c'était quand même très centré à Paris. Et donc, je voulais qu'elle soit là parce que c'était important de montrer qu'il y a aussi... c'est porté par de vrais combats, par de vrais engagements, que les choses n'avancent pas toutes seules. Hein. Donc ça, c'était important. Et puis les autres, en fait, pour les trouver... Alors, il y en avait que je voulais parce que, bah, par exemple, celles qui font la couverture... alors, c'est les premières que j'ai photographiées en couple. Donc, c'était risqué pour elles, pour moi. Mais comme on s'aime, ça va. C'était plutôt bien. Mais celles qui ont créé le laboratoire de...
L'observatoire
de la lesbophobie. Donc, il y en avait certaines que je connaissais, que je trouvais assez importantes. Et puis, il fallait aussi s'éloigner sociologiquement, géographiquement de moi. C'est toujours un peu le problème, c'est que... Enfin, je le vois, moi, je ne suis pas parisienne, mais enfin, je vis à Paris. Mais non, j'ai plus vécu à Paris qu'en région. Et je vois bien à quel point Paris absorbe beaucoup de choses, quoi. Et que, voilà, il fallait aller ailleurs, donc, puis dans des zones rurales, voilà. Donc, j'ai été chercher des femmes loin de moi, le plus loin de moi. Je suis pas mal passée par des hétéros, en fait. Par exemple, si j'étais invitée à faire un atelier, je suis allée par exemple à Lormes, que je ne connaissais pas, et donc j'ai demandé aux organisateurs, est-ce que vous connaissez des lesbiennes en coin ? Oui, voilà, donc on s'est appelées. Ça s'est passé un peu comme ça, d'aller chercher au plus loin. Alors, malgré tout, ça fait une grande diversité, mais... de sociologiquement, en âge, je crois que la plus jeune a 17 ans et la plus âgée 77. J'ai essayé d'être très diverse et je pense que c'est le cas, hein. Mm-hmm. Dans les origines aussi, dans les niveaux d'études. Enfin, voilà, bah, j'avais pas une liste, hein, non plus, ça s'est fait comme ça. Puis, il y a quelque chose d'important aussi, c'est que je suis pas jeune. Ça veut dire que... Et c'est plutôt un atout dans ce type de projet, parce que je vois bien, hein, je milite, donc je milite avec des jeunes qui ont 22, 23 ans et d'autres qui arrivent à 80 ans maintenant. Hein. Donc et chez les lesbiennes, il y a un prisme, enfin c'est énorme. Il y en a une, Cécile Jung, qui dit mon lesbianisme va de Marie-Jo Bonnet à Alice Coffin. Donc quand on les connaît, on voit bien le grand écart que ça peut être. Il y a un écart générationnel, idéologique, etc. Mais moi, comme j'ai 61 ans, je connais les deux, en fait. Et l'histoire du mariage a pu être extrêmement clivante. Hein. Donc je vois bien, je fais partie de ces lesbiennes qui ont grandi en sachant qu'elles ne se marieraient jamais, qu'elles ne feraient jamais d'enfants. Et puis alors d'un coup, voilà, ça arrive, c'est possible. Et je vois bien toutes ces questions qui se posent. Et je pense que les plus âgées n'auraient pas... j'en ai discuté ultérieurement avec elle, n'aurait pas forcément répondu à une petite lesbienne un peu trendy de Paris, les cheveux bleus, etc. Non, j'exagère un tout petit peu, mais en fait, non. Alors comme moi je connais des lesbiennes de 20 ans et des lesbiennes de 80 ans, j'avais une bonne place, en fait, pour qu'elles me parlent toutes.
Mmh.
Voilà.
Et de ce fait, est-ce qu'elles ont eu l'impression d'apporter une pierre pour changer le monde, pour
oui.
changer la façon
Elles sont toutes très fières. Ça, j'ai reçu... Enfin, ouais, elles sont toutes très, très fières. Elles ont eu... Il y en a qui ont traversé des moments angoissants, en fait. Hein. Mais elles sont... elles sont fières, ouais. Elles peuvent, parce qu'il faut vraiment du courage. Hein. Moi, je ne l'aurais pas fait il y a 10 ans. On m'aurait proposé, je ne l'aurais pas fait. Non, c'est sûr.
Mmh. Mais c'est en effet, comme tu disais, donc on a vraiment une diversité des personnes sur toutes les catégories que tu as déjà nommées. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, puisque tu fais en fait une présentation aussi de ce livre, tu écris un texte qui pose un peu des choses que tu viens de partager et d'autres, mais aussi cette idée en fait de sortir de l'impression en fait que les lesbiennes, c'est un bloc, un groupe qui est identique et qui a le même point de vue sur tout et qui avance comme ça en peloton dans la même direction. Et toutes les personnes que tu nous proposes, en fait, et qui te racontent, permettent vraiment, en fait, de sortir de cette idée d'homogénéité. Ça, c'était important.
Ça, c'était hyper important. Alors, je suis auvergnate et celui qui dirige notre région s'appelle Vauquier. Bon, et je lui voue une haine absolue. Il faudrait pas qu'il dirige notre région. Et donc, pourquoi je suis pas... Dès que je prononce Wauquiez, je me perds.
Homogénéité.
Voilà, et en fait, c'était lui qui disait... alors c'était toujours, enfin c'était lui et ça, le mariage pour tous, c'était le mariage homosexuel, le mariage gay, la communauté LGBT. Mais où est-ce qu'il a vu une communauté LGBT? On met 10 gays d'un côté, 10 lesbiennes de l'autre, il y avait une faction en sortant, enfin si on parle de politique. Tout le monde est très différent, mais de dire communauté, de dire, la façon dont il disait communauté, la façon dont il disait ça, c'était pour nous rassembler dans une cible très nette, très claire. Et c'était pour mieux nous descendre. Et moi, ça m'a profondément blessée. Hein. Moi, c'est simple, pendant toute l'année-là, les 6 mois qu'ont duré les débats, on était à Paris, c'était compliqué aussi. Hein. Il y avait les slogans tagués par terre, les gens qui distribuent. Il y a eu les grosses manifs, enfin, ça a été quand même très, très violent. Moi, je me levais, je pleurais, je me couchais, je pleurais. Enfin, c'était... C'est marrant parce qu'ultérieurement, bien sûr que je leur en veux de ce qu'ils nous ont fait vivre. Et en même temps, à titre personnel, mais j'ai bien vu en discutant avec les autres, ça nous a fait sortir du bois. Moi, j'aurais jamais dit « je suis lesbienne ». Je disais « ouais, je suis homo », comme ça. Et puis un jour, quand je me suis retrouvée place de la Nation avec 50 bus qui se garaient pour la manif de janvier, là, eh ben, il y a un truc qui a dévissé dans ma tête. Et là, j'ai dit « je suis lesbienne » et je n'ai plus jamais lâché ce mot. Plus jamais. C'est devenu mon émancipation. Et c'était important de montrer cette diversité. C'était important de ne plus être une cible, en fait. Parce qu'on était une cible. Et en plus, une cible qu'on invisibilisait. Même au niveau de l'inter-LGBT, c'était des mecs qui nous représentaient. On n'existait pas. Enfin, c'était fou. Dans les médias, on voyait Caroline Fourest. Point. Parce qu'elle était journaliste. Et puis que, bon, bah, on va pas rentrer dans des détails, mais enfin, il y avait Caroline Fourest, à peu près, c'est tout, qui était de lesbienne visible, en fait. Donc, ça va pas. Mm-hmm. Ça va pas. Enfin, on a l'habitude, hein. Quand c'est un sujet sur les voiles, on va demander à des mecs. Enfin, les concernés ne sont jamais invités. Donc, c'est pour ça que c'était. Dans ce projet-là, il y avait aussi beaucoup, pour moi, quelque chose de la réparation.
Mais ce qui me fait penser, évidemment, au discours de Christiane Taubira, et donc il y a un extrait dans la préface d'Anne Pauly qui se termine par cette fameuse phrase « Restez avec nous, gardez la tête haute, vous n'avez rien à vous reprocher ». Et c'est vrai que, en fait, c'était il y a 10 ans. 10 ans, c'est quand même une grosse période de vie, donc on peut avoir oublié des choses. Alors évidemment, Christiane Taubira, elle revient dans beaucoup. Elle fait partie, je pense, à la même auteur que le baiser de Madonna et Britney ou des choses comme ça. Enfin, il y a un truc où elle reste une icône, en fait, de ce moment-là. Mais quand on repense à ce qu'elle dit là, à ce moment-là, gardez la tête haute, vous n'avez rien à vous reprocher. Moi, je pense que ça m'a brisé le cœur à ce moment-là de me rendre compte de ce qu'elle disait à ce moment-là. C'était accrochez-vous, vivez, en fait. Cet endroit-là de vivre... Enfin, je pense qu'il y a un truc d'une violence sans nom qui s'est passée pendant ces 2 années-là, et que 10 ans plus tard, on dise bah, « on a vécu, et on est heureuse, et on est dans la joie, et en plus on se montre et on n'a plus peur, ou en tout cas on est suffisamment affranchi que pour être dans ce livre et voilà, partout disponible, etc. » Ça, c'est... J'imagine toute la puissance du geste aussi.
Ouais, mais quand je dis ça nous a fait sortir du bois, c'est vrai. Hein, donc d'une certaine façon, des fois, je dis bon, ben en nous tapant dessus, on va mieux. On a été mieux. Enfin, je pense que globalement, on a mieux réagi. Je pense qu'on a peut-être plus pris. Puis on est dans une autre époque aussi de réseaux sociaux. De la parole se prend différemment. C'est vrai. Ouais. Mais alors on va pas rentrer sur l'histoire du discours de Taubira parce que là je peux chialer pendant 3 heures. Je l'ai vu en direct, c'était oui, moi j'ai eu l'impression qu'elle nous consolait. Elle nous prenait dans les bras, elle nous consolait. Ce qui n'enlève pas à un titre plus extérieur à Taubira, enfin politique, que quand même le gouvernement socialiste nous a bien plantés, parce que 6 mois de débat, ça a donné la place à nous emmerder quand même. Hein. Donc Anne Pauly dit toujours trahison, hashtag trahison socialiste. Mais oui, et voilà. Alors on ne va pas enlever les questions politiques, mais c'est vrai que Taubira, en tant que personne humaine, a été à ce moment-là... enfin, parfaite. Moi, j'ai eu l'impression d'être dans ses bras. J'ai eu l'occasion, avec la déferlante, j'extrapole un petit peu, mais de photographier Alice Diop et Christiane Taubira ensemble. Et à un moment, Alice Diop, donc, qui n'est pas lesbienne, lui parle de ce discours. Et elle lui dit, avec beaucoup d'émotion, elle lui dit « Quand je vous ai vu là, à l'Assemblée nationale, une femme noire, parler comme ça, et là d'un coup je me suis dit ah ouais mais Taubira c'est encore plus vaste que ce que j'imaginais. En fait il y a quelque chose qui va toucher plein de gens à plein d'endroits. Ouais. C'était très fort ce moment. Ouais. Mm. Ouais, il y avait quelque chose. Moi je pense qu'on avait besoin de consolation. Enfin ça avait été tellement tellement violent. Mais voilà, il y a eu aussi des façons de s'en sortir et je pense que là dans ce livre on voit ces façons de s'emparer à titre individuel et collectif. De cette question et de dire ça ne... On sait très bien que nos droits sont très fragiles. Il n'y a qu'à voir l'Italie qui veut revenir en arrière sur les droits des mères. On sait que c'est fragile mais que là, on se fera peut-être plus prendre en défaut, en fait. Mm-hmm. Là, on a été pris en défaut. Ouais.
Un endroit aussi qu'on voit entre les lignes et qu'on peut aussi lire de manière plus frontale dans ces questions en fait de portraits très diverses en fait, c'est aussi de pas avoir le même avis en fait sur cette le fait de mariage ou pas, est-ce qu'on avait vraiment envie que ça passe, est-ce que au final, mais par contre on n'est pas d'accord certes, mais on valorise le fait que le collectif a été mis en jeu et que même si on avait, enfin, ces femmes ne voulaient pas se marier, n'auraient jamais envie de se marier, ne se marieraient jamais, elles allaient quand même soutenir la cause. Et ouais. Ça, il y a quelque chose de montrer que c'est possible et que c'est arrivé, ce fameux collectif.
Oui, ça a été d'ailleurs ce qui a été principalement reproché à Marie-Jo Bonnet, qui par ailleurs, il y a longtemps, a beaucoup travaillé sur les femmes artistes, etc. On lui doit des choses, hein, notamment un livre sur « Qu'est-ce qu'une femme aime quand elle aime une femme ?» Il n'y avait rien à ce moment-là. Donc, on ne peut pas annuler ce qu'elle a fait, mais à ce moment-là, elle a pris cette position contre le mariage. Et elle l'a fait savoir. Et donc, bien entendu, les autres se sont jetés dessus. Ah bah tiens, une lesbienne qui contrôle le mariage, c'est bon pour nous. Et bon, elle en paye malheureusement l'addition. Mais quelqu'un, le témoignage de Cécile Jung est très clair là-dessus. C'est la même génération, hein, même moi. Oui, on a le même âge avec Cécile. Et elle l'explique très bien. Elle était contre. Elle explique très bien pourquoi elle est contre. Et elle explique très bien pourquoi elle se l'est fermée pendant tout le temps des débats. Et elle a parlé après. Mais c'est vrai que les autres, moi, enfin, ce mariage, j'ai jamais eu l'intention de me marier, etc. Mais on a très vite vu l'homophobie arriver, et donc j'ai fait toutes les manifs. Enfin, oui, je me suis mobilisée pour ce mariage, mais je me suis pas mariée. Je pense pas que je me marierai.
Je pense que ça montre aussi que à partir du moment où il y a le cadre, bah, c'est la meilleure façon. Après, d'en faire bien ce qu'on veut, mais que de poser cette loi, ça a quand même permis, en fait, d'inscrire quelque chose, oui, qu'on l'utilise ou pas, qu'on en soit d'accord ou pas, mais en tout cas, elle est venue poser un instant, et c'est bien, toute cette pluralité-là, en fait, de portraits montre bien que maintenant, ben, en fait, ça fait partie de la vie, en fait, d'une certaine manière.
Oui, et puis je vois bien à quel point ça peut faciliter une vie. Enfin, moi, j'ai pas du tout de jugement sur quoi que ce soit. Moi, à l'époque, il y a 10 ans, je vivais avec une femme qui avait conçu un enfant en Belgique. C'est pas elle qui l'avait porté. Elles étaient séparées. Et il y avait une garde alternée, ça se passait très bien, donc voilà. Mais je voyais bien tous les problèmes que ça posait. Le jour où il a eu mal au ventre, hein, et puis un petit peu plus mal au ventre, et puis que le médecin vient, et puis que ça se termine en péritonite parce que sa mère biologique est à l'autre bout du monde et ne répond pas au téléphone, parce qu'elle est à l'autre bout du monde et que voilà. Et ben, ça devient, c'est un vrai problème, oui. Mais alors, est-ce qu'il fallait en passer par le mariage et par réforme ? Enfin, j'en sais rien, mais... En tout cas, maintenant, oui, ça peut vraiment faciliter la vie, principalement d'enfants, en tout cas. Mmh. Parce qu'ils nous ont mené la danse, là, avec les familles, les parents, etc. Mais enfin, c'est un enfant qui a deux parents, voilà, ça peut être pas mal aussi, au quotidien.
Voilà. Une des choses qu'on ligne à travers tous les portraits, toutes les interviews, les entretiens. C'est en effet, tu l'as dit un peu précédemment, cette façon de comment on se nomme. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on ne peut pas faire de généralité de génération où chaque personne, en fait, a sa propre façon de se nommer et de dire jusqu'où elle est capable d'aller, les mots qu'elle revendique, ceux dont elle a encore peur ou qu'elle trouve pas beau, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, c'est magnifique de se dire qu'elles sont tous à dire « j'aime les femmes », ça, c'est indéniable, mais que la suite, c'est parfois un petit peu plus aléatoire, on va dire. Ce truc-là de nommer... Ça devait être beau de les voir aussi, essayer de dire et de...
Oui. Alors, bien entendu, celles qui sont militantes, elles, c'est très affirmé. Mais pour les autres, c'est compliqué. Moi, j'étais très contente à un moment de rencontrer un couple qui en était au point où j'en étais il y a 10 ans. C'est-à-dire de... Elles vivent bien... Mais on va pas dire... Enfin, les gens le savent, mais enfin, on va pas vraiment nommer. Enfin, moi, l'objectif de ma vie, quand même, c'était qu'on me foute la paix sur le sujet, quand même. Donc, je pensais que ne pas nommer, c'était ça, en fait, ma tranquillité. Puis j'ai compris que ça ne l'était pas. Et j'étais très, très contente de rencontrer ces femmes qui en étaient à ce point-là, où j'en étais il y a 10 ans. Et parce que c'est encore ça. C'est encore une drôle d'histoire. Et le mot lesbienne qui a été tellement abîmé. Il y a pas très longtemps, ma mère n'est pas de jeune, hein, et elle me dit, n'utilise pas ce mot, ma petite fille. C'est pas beau. Je lui dis, mais oui, mais quoi? Comment on va dire quoi alors? Et au bout de 10 minutes, elle me dit, bon, ben d'accord, j'ai compris. Et je l'ai entendu dire, alors ma fille qui est lesbienne, voilà. Mais voilà, on a des chemins avec des lenteurs, avec des prises de conscience plus ou moins lentes. Voilà, ça dépend où on vit, ça dépend beaucoup de choses, ouais. Mais se dire, c'est dingue parce que les hétéros n'ont pas à se dire. Et du coup, avoir à se dire, ça demande un chemin qui est loin d'être inintéressant, en fait. Et moi, beaucoup de jeunes lesbiennes m'écrivent, ça c'est la surprise de ce livre, beaucoup de jeunes qui me disent oh, « on n'avait jamais vu de vieille lesbienne ». Alors, comprendre au-dessus de 40 ans, hein. j'ai dit, mais si, vous envoyez, mais par exemple, on se tient pas la main dans la rue. Des choses comme ça, voilà. Et donc, je suis très contente que les jeunes s'emparent de ce livre parce que ça leur donne des images. Il y a un portrait qu'elles adorent, bah, c'est les plus âgées, hein, Anne-Marie et Marie. Alors là, elles adorent ce portrait, moi aussi d'ailleurs. Enfin, j'adore tous les portraits. Et ouais, ça inscrit une histoire, en fait. Ça nous procure des représentations qu'on n'avait pas. En fait. Et ça, c'est important.
Oui. Oui, et puis ça inscrit des sortes de précédents aussi.
Alors, je voudrais quand même parler d'une chose, c'est que moi, avant de commencer ce livre, j'avais pas de référence. Enfin, les deux références que j'avais, c'est-à-dire des livres... Enfin, quand je dis grand public, on va revenir après, je pense, sur l'édition du livre, hein. D'un livre de représentation de lesbiennes, où les lesbiennes sont le sujet, photographiées par des lesbiennes. En fait, j'avais Zanele Muholi, qui est une photographe sud-africaine, qui doit avoir une quarantaine d'années maintenant, qui a photographié, qui a fait des portraits fabuleusement bien. En Afrique du Sud, au tournant des années 2000. Moi, j'ai vu son travail en 2012, aux Rencontres d'Arles. Voilà, il y a eu une grande rétrospective à Paris, là, cette année, qui était passionnante. Donc, c'est une activiste, hein. Et puis après, j'ai découvert un livre qui s'appelle de John Byron. Alors, John étant une femme. C'était fin des années 60, début des années 70 aux États-Unis. Elle a pris son appareil, elle a été faire des portraits de femmes lesbiennes et des entretiens aussi. Et j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec les deux au début du livre. Alors, Zanele, je la connaissais un peu, John Byron pas du tout, mais on a pu échanger, ce qui était bien parce que on n'est pas fin des années 60, on n'est pas en Afrique du Sud. Et cela dit, elles ont procuré et je procure des représentations. Enfin, c'est extrêmement rare, en fait. C'est extrêmement rare. Alors, on peut trouver. Alors, on n'a pas de projection ici. Là, j'ai fait ça récemment au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, où j'ai pu montrer une sélection de photographes lesbiennes qui travaillent sur les lesbiennes. Mais c'est rare parce que pour avoir la visibilité alors il y a des travaux, hein, Cathy Pellan que j'ai photographié des butch dans les années 2000, il y a Nicole Miquel qui a photographié des femmes qui allaient dans les bars, elles tenaient des bars à Paris, des bars lesbiens, donc on peut voir des pentes, enfin des lesbiennes comme ça. Mais c'est un livre qui est sorti pendant que je bossais là, en 2022, à 200 exemplaires, avant que les travaux des lesbiennes aient de la visibilité, ce qui a été l'enjeu de ce livre. Et il faut une conjonction d'événements qui sont difficilement atteignables. Donc là, j'ai suivi une voie qui fait qu'on y arrive, mais sinon c'est compliqué. On peut en parler d'ailleurs ?
Parlons-en.
Ouais. Non, parce que c'est en fait c'est assez intéressant. Enfin, c'est un peu rétrospectivement où j'y pense. C'est-à-dire que on peut plus présenter à un jury maintenant. Il n'y a pas un mec qui peut arriver en disant tiens, je vais faire un sujet sur les lesbiennes. C'est fini ça. Il faut qu'on connaisse le sujet. Alors ça ne veut pas dire les noirs photographient les noirs, les lesbiennes, etc. Mais enfin, faut quand même être un peu concerné par le sujet. C'est assez récent donc. Ce genre de changement. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut pouvoir arriver avec un dossier devant un jury en disant, dans ce cas-là, je suis lesbienne et je vais aller rencontrer des lesbiennes. Et pour pouvoir dire ça, c'est compliqué. Parce que moi, j'en connais hein, des photographes lesbiennes. Alors d'abord, c'est pas parce qu'on est lesbienne qu'on a envie de photographier des lesbiennes, hein, déjà, que les choses soient claires. Mais pour pouvoir le dire, il y a un risque. Il y a le risque de voir sa carrière abîmée. Il y a le risque qu'on soit cantonné dans le secteur LGBT, queer, machin, etc. Alors qu'on n'en a peut-être pas envie. Il y a le risque d'être mis à l'écart. Et moi, je sais, hein, j'en connais, hein, qui me dit, moi, je ne vais pas faire la lesbienne de service. Bon, je dis, bon, bah, je vais le faire. Mais pourquoi je peux le faire ? Parce que moi, j'ai milité pendant 10 ans. Donc, ma carrière, elle a explosé. C'est chaotique, forcément. Une femme qui dit aux institutions, bon, alors, écoutez, c'est sympa. Il va falloir mettre un peu plus de 10% de femmes. Ils n'aiment pas. Donc ma carrière était foutue, en fait. Donc, j'avais plus rien à perdre. J'ai 60 ans, je n'ai plus rien à perdre, en fait. Donc, je pouvais me le permettre. Et puis, j'étais sortie du placard depuis un moment sur ces sujets. Parce que, donc, voilà. Donc, je pouvais me permettre d'arriver devant un jury en disant, voilà, je suis lesbienne et je connais ce sujet et je vais pouvoir y aller. Voilà. Et donc, d'être complètement légitime. Donc, ça, de se sentir légitime, ce n'est pas rien. Et puis, après, pour faire un tel livre, il faut de l'argent. Et les photographes sont une profession en déroute totale. Hein. Revenu médian d'un photographe est de 1 400 euros, 1 000 pour une femme. Bon. Donc quand on veut faire un projet comme ça, il faut de l'argent. Donc là, on avait 20 000 euros, ce qui n'est pas resté de gras. Hein, mais, parce que moi, j'ai décidé de faire un livre. Donc j'ai fait beaucoup plus que la demande de la BNF. Et donc le livre, c'est là où c'est important. Parce que ben, moi, j'ai demandé à un éditeur que je connais, ben, celui qui a fait ce livre, c'est un éditeur photo local. Et je lui dis, ça t'intéresse un livre comme ça ? Il me dit, ouais. Et donc, il me dit, ben, je vais réfléchir. Puis moi, je continuais à bosser. Et puis, alors, il y a une photo dans le livre que je n'ai pas fait pour le livre. C'est le portrait de Alice Coffin et Yuri Casalino. Alice Coffin, ça doit vous dire quelque chose ? Dans le style lesbienne connue, hein ? que j'ai rencontré quand j'étais à la barbe. Donc on se connaît, on a fait des actions ensemble, moi je filmais, donc je la connais, puis j'ai fait son portrait pour La Déferlante. Et donc je lui ai dit, ça t'embête si on reprend ce projet, j'aimerais bien vous interviewer, donc je vais l'interviewer. Donc j'étais en pleine production, hein. Et donc je lui parle du projet du livre, et elle me dit, faut pas que tu fasses ça. Elle me dit, il faut être mainstream, il faut de la diffusion, il faut sortir de l'édition limitée. Et le livre photo, ce sont des livres qui sont assez impressionnants, en règle générale, par le volume, par le poids, par la qualité du papier, c'est cher. Ça tire au maximum à 1 000 exemplaires, hein. Bon, à part Yann Arthus Bertrand, bon, mais... tout le monde n'est pas écologiste. Et donc ça, c'était trop limité, en fait. Et puis, j'étais en contact avec Flammarion, le gars des projets spéciaux me dit, ouais, il était gay, donc il a bien compris de quoi ça parlait. Et il me dit, mais vous allez être complètement perdu dans tout ce qu'on sort comme livre. Et puis, il y a Lucie Geffroy, une des associées des quatre fondatrices de la Déferlante, qui m'appelle. On doit être au début de l'été. Et elle me dit, bon, je sais que tu fais... que tu fais ce travail, je voudrais le publier. Et je ne suis pas chaude parce qu'elles n'ont fait qu'un livre de Talma Desta, donc de texte. Et là, c'est de la photo quand même. Donc, je l'écoute et je lui dis, écoute, je ne suis pas convaincue. Puis, j'avais peut-être encore ce truc de Flammarion. Bon. Et puis, elle me rappelle 15 jours plus tard, me disant, bon, est-ce que tu as un moment, je voudrais vraiment t'expliquer. Et là, à la fin, et je lui dis, bah ouais. Et puis, ce qui était très important, c'est que, je le dis, elle est d'accord, hein, elle est lesbienne. Et de faire un livre avec une lesbienne. Alors, j'ai fait un autre livre avec une autre lesbienne, c'est pas bien. Mais d'ailleurs, c'est pas sorti. Voilà, ça a été. Alors, moi, j'avais déjà une relation de confiance hein, avec la déferlante, puisque j'avais travaillé plusieurs fois. Et puis, il se trouve aussi que la directrice photo, donc Ingrid Millot, à chaque fois que moi je revenais de prise de vue, je lui montrais les photos. Alors, elle n'est pas lesbienne, mais c'était hyper intéressant parce que je voyais son regard évoluer. Je voyais ce qu'elle voyait. Parce que ce n'est pas fait que pour les lesbiennes, ce livre. C'est fait pour tout le monde. Et donc, c'était un travail passionnant. Et donc, elle connaissait hyper bien le projet. Et Lucie a demandé à Diane Milelli, qui est une jeune femme, de s'emparer des textes et de les réécrire, de valider aussi avec chacune. Alors, il y avait un nombre de signes à calculer, parce que moi, j'avais tout retranscrit, comme ça, avec la brune, comme ça. Et puis, mais c'était une masse énorme de textes. Et puis, je suis pas la meilleure intervieweuse du monde non plus, donc c'était un peu foutoir, quoi. Enfin, il y avait une grosse masse, et il fallait faire un livre. Et c'est remarquable. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à lire. Hein, c'est un peu comme quand on a lu le roman, on hésite à voir le film. Bon, ben là, moi, j'avais vu le film, j'hésitais à lire le texte. Mais chacune a été vraiment... s'est sentie très, très respectée. Il a fallu valider quand même toutes les histoires. Parce qu'une fois, là, on discute comme ça. Là, on peut discuter toutes les deux. Puis après, on dit, tiens, un bouquin avec... Bah, on s'est raconté des choses, c'est compliqué aussi. Et le travail qui a été fait... avec la déferlante, quand je suis arrivée, on parlait de conditions matérielles de travail. J'ai eu un bon contrat, et c'est pas rien, un bon contrat dans l'édition quand on est photographe. Voilà, il y avait Lucie avait comme moi la sensation qu'on avait une matière extraordinaire en fait. Voilà.
Mais oui, on vous aime, la déferlante. On vous aime très fort.
Et donc, quand je lui ai dit, bon, on le fait ensemble, d'accord, mais il faut qu'il soit tiré à beaucoup d'exemplaires. Et il est tiré à 6000 exemplaires. Je lui ai dit, il faut qu'il soit souple, qu'il ne soit pas trop gros. Il faut... Parce que dans les librairies, il n'y a pas des endroits de photos. Je lui ai dit, il faut qu'il ne soit pas cher aussi. Qui soit accessible, et donc sortir un livre avec plus de 60 photos, autant de textes, à 6000 exemplaires pour 25 €, c'est une performance. Imprimé en France en crise du papier, franchement, c'est aussi une performance d'éditrice.
Et on a beaucoup de chance que ce livre existe. Merci à toutes ces brillantes personnes d'y avoir participé. Merci à toi aussi.
Oui, moi je pense ce livre comme un livre collectif. Alors c'est mon nom qui est dessus, mais pourrait y avoir au moins 60 noms.
Voilà. On pense très fort à toutes ces personnes. Ouais. Et puisque c'est le Festival d'Amour et que c'est notre dernier petit moment ensemble, je vais te demander... sous nos regards interloqués et curieux, de créer une poésie d'amour grâce au cube d'amour.
Voilà, alors... Ouh ! L'orgasme du temps surprend l'amitié. L'air... l'orgasme du temps surprend l'amitié, bouge sur l'air durement.
Ouh, si c'est pas ça, un 14 février, ça, moi je ne sais plus ce que c'est. Merci beaucoup Marie.
De rien, merci en tout cas pour l'invitation.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Marie Daucher, à l'occasion de la publication de son ouvrage « Et l'amour aussi » à la Déferlante édition. Le Festival d'amour, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore, et Chien fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec l'Affranchi Podcast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.